Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Le 31 décembre 2025, Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français pour l'avant-dernière fois en tant que président de la République. Il a souhaité que 2026 soit une année utile. Pour autant, l'année 2026 risque d'être difficile pour le chef de l'État. Il faudra trouver un compromis sur le budget. Ses marges de manœuvre sont très réduites et les oppositions ne vont pas le ménager à mesure qu'on s'approchera de l'élection présidentielle. Restent les dossiers internationaux où le président Macron tentera de faire entendre la voix de la France. Et les dossiers ne manquent pas, comme la capture du président Maduro par les Américains. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, RadioOrient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour Henri et bonne année.
Bonjour Loïc, bonne année à tous.
Alors les commentaires après les vœux du président Macron ont été assez durs, vœux quasi crépusculaires pour les uns, ambiance de fin de règne pour les autres. Nous allons essayer de comprendre à quoi ressemblera l'année 2026 pour Emmanuel Macron, une année utile ou une année difficile. Mais d'abord, Henri, que retenez-vous de ces vœux aux Français, vous qui avez écrit un livre sur les vœux présidentiels?
Oui, et justement, ces vœux, c'est un rituel républicain. Et on le sait, Emmanuel Macron, il adore ça, les rituels. En plus, là, c'est le moment, c'est un moment particulier où vous êtes seul, le président, un homme, enfin en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas eu encore de femme présidente, qui est face aux Français dans un moment bien particulier. On fait à la fois le bilan, on lance l'année à venir, on trace un cap. Donc c'est un moment vraiment fort qu'il apprécie. D'ailleurs, il nous avait habitués à des vœux assez longs, assez nourris. Bah, là, ce qui m'a frappé, c'est justement la brièveté. Moins de 10 minutes chez lui, c'est assez exceptionnel. Je remarque d'ailleurs que ces derniers mois, ses interventions, ses discours sont plus courts que pendant les 9 années précédentes de son mandat. Également, un discours qui n'a pas été marqué par des annonces. Donc, c'est plutôt quelqu'un, en effet, qui est sur une espèce de réserve, comme c'était un président, finalement, empêtré, voire empêché par le système politique aujourd'hui. Donc il ne fait pas d'annonce, presque un président, j'allais dire, dévalué. Et ça, dévalué, c'est peut-être un mot un peu cruel, mais ça correspond également tout simplement au nombre de téléspectateurs qui ont suivi ses vœux, puisqu'ils étaient 1 million de moins que l'année précédente.
Henri Vernet, l'année 2025 a été marquée par l'instabilité politique en France. À quoi va ressembler 2026 pour Emmanuel Macron, la dernière année pleine de son quinquennat? Il l'a dit, il veut que ce soit une année utile. La porte-parole du gouvernement souhaite que le premier trimestre 2026 soit consacré aux questions régaliennes, armée, justice, police. Mais peut-on s'attendre à une année compliquée pour le chef de l'État, notamment sur le plan intérieur?
Oui, certainement. 2025 était déjà une année compliquée, donc il n'y a aucune raison que les choses s'arrangent. Je vous l'avais dit, c'est la dernière année pleine, mais avec des moyens extrêmement réduits. Parce que si on y songe, par exemple, Jacques Chirac, lui-même, c'est lui qui avait lancé ce concept d'année utile. Il en avait parlé avant chacune de ses fins de mandat. La première fois en 2001, il avait été réélu par la suite, et puis en 2006, donc avant la présidentielle qui verrait la victoire de Nicolas Sarkozy, en souhaitant quand même d'avoir une année utile. Sauf que là, ce qu'on voit bien, c'est que d'abord, la France, comme il y a un an, se retrouve aujourd'hui sans budget. Donc déjà ça marque à quel point la marge d'un gouvernement faute de majorité est réduite, elle est délicate. Et donc dans ce contexte-là, avoir une année où on puisse... Une année utile, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on lance des réformes. Quelle réforme peut lancer un président et un exécutif plus généralement qui n'a pas de majorité, qui n'a pas de relais parlementaire? Là, on peut vraiment en douter. Alors on y reviendra. Il a mis l'accent sur différents chantiers, mais ça, c'est quand même vraiment un point primordial. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, contrairement à l'année précédente, il n'a pas relancé cette idée de référendum, de nouveau rendez-vous avec les Français. Or, ça aurait été justement une façon d'essayer de trouver un lien, de donner la parole et de faire un acte politique vraiment important. Là, ça n'a pas été évoqué.
Alors, le gouvernement veut un budget en janvier. Sébastien Lecornu a pour l'instant gouverné de manière assez habile en parvenant à des compromis avec les socialistes sur le budget de la sécurité sociale. Mais le vote du budget de l'État s'annonce difficile. Et si le Premier ministre revient sur sa promesse de ne pas toucher au 49-3, il prend le risque d'être censuré ?
Oui, alors c'est quand même un risque mesuré. C'est vrai que le 49-3, il l'avait écarté d'emblée. C'était un peu la méthode, hein, Lecornu. Il a fait ça d'ailleurs assez habilement pour arriver à faire voter donc à la majorité, enfin de manière tout à fait parlementaire, le budget, le PLFSS, c'est-à-dire le budget de la sécurité sociale. Là, on voit bien que ce serait beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus risqué pour le budget de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il aura besoin, comme pour le budget de la Sécu, il aura besoin du vote des socialistes. Or, ceux-là ont déjà dit que, ou même une abstention pour eux sur ce budget ne serait pas du tout certaine, tant il a des aspects qui, dit Olivier Faure, font horreur aux socialistes. Donc, on voit mal comment éviter un 49-3. Alors, face à un 49-3, éviter la censure, est-ce que c'est possible ou pas ? Oui, dans la mesure où un texte de compromis pourrait être possible, c'est-à-dire un budget, un projet de texte qui finalement présenterait suffisamment de concessions à la fois pour les LR, pour les Républicains, dont évidemment l'abstention, sinon le vote pour, est primordial, mais aussi pour les socialistes. Alors on voit bien que là, on est revenu à la recherche de compromis. Le gouvernement a quelques semaines devant lui pour y arriver. On voit notamment qu'il y a des concessions sur l'imposition exceptionnelle sur les entreprises qui avaient été supprimées par le Sénat et qui pourraient revenir. Bref, qu'il y a cette recherche pour trouver, disons, un accord de non-censure, faute d'un vote en dehors du 49-3 qui lui paraît aujourd'hui impossible.
Henri Vernet, dans ses vœux, Emmanuel Macron a annoncé trois chantiers. La loi sur la fin de vie, le service national et la protection des adolescents face aux réseaux sociaux. Ce sont des sujets importants, mais pourquoi s'est-il limité à ces trois chantiers ?
Alors pour des raisons en fait assez pragmatiques, j'allais dire. D'abord parce que ce sont des sujets qui tous les trois sont relativement consensuels, c'est-à-dire que une réglementation beaucoup plus ardue, beaucoup plus stricte des réseaux sociaux pour protéger les jeunes, bah en gros tout le monde est pour, je veux dire, y compris dans la classe politique. Alors savoir si ce serait tout applicable, réalisable très concrètement, ça c'est une autre histoire parce que rien ne le garantit. C'est pas un domaine finalement qu'on arrive à réglementer à coup de loi. Quant à la fin de vie, Emmanuel Macron l'a rappelé, hein, c'était un engagement déjà depuis sa campagne de 2022 présidentielle. En réalité, ce chantier aurait dû aboutir bien plus tôt parce que là aussi, il y a une vraie volonté des Français, non pas un consensus, parce que c'est un sujet difficile, mais il y a quand même une majorité qui s'était dessinée. Ce texte était d'ailleurs prêt à être voté. Il en a été empêché par quoi ? Par la dissolution de 2024. Donc là, c'est tout simplement remettre sur les rails un chantier qui était bien avancé. Enfin, vous avez cité le service militaire. Alors attention, hein, qui est quand même loin d'être un service généralisé et qui reste volontaire et non pas obligatoire. Néanmoins, c'est quand même un acte assez fort dans ce contexte international tendu de la part d'Emmanuel Macron. Mais là aussi, c'est assez consensuel. Il y a quand même un élément que moi qui m'a marqué, j'étais à Abu Dhabi dans sa visite aux troupes françaises qui sont déployées dans l'Émirat à la fin du mois de décembre, et là il a lancé un peu à la surprise générale, en tout cas il a officialisé la première tôle, pourrait-on dire concrète, du futur porte-avions nucléaire nouvelle génération qui remplacerait le Charles de Gaulle. Et ça veut dire d'abord que c'est un engagement fort de la France, que c'est un chantier qui va durer des années et surtout qui va être extrêmement budgétivore, qui va coûter très cher. Et donc là, dans quoi il est sur ce domaine-là, comme sur les services nationaux, il est en gros sur son domaine réservé. Et donc autant je disais en début d'émission que c'est un président qui en quelque sorte presque paraissait résigné à une relative impuissance, ben en fait, pas tant que ça. C'est un président qui veut montrer qu'il est là, qu'il a encore un pouvoir d'action, notamment donc sur ses domaines réservés et sur des chantiers auxquels il pourrait en appeler directement aux Français. Et donc ça atténue cette idée de président crépusculaire.
Alors j'aimerais revenir sur une phrase qu'on a entendue dans les vœux d'Emmanuel Macron. Comment faut-il entendre sa phrase « Oui, notre pays tient ».
Bah, c'est une façon déjà de défendre son bilan. Il tient parce que, bah, vu les épisodes politiques, quand même, jamais la vie politique n'a été aussi chaotique depuis des décennies en France. La Ve République, instituée par le général de Gaulle, c'était justement la stabilité. Or là, c'est tout sauf la stabilité. On a même du mal à retrouver une boussole politique quand on voit un Parlement qui est quand même privé de majorité désormais depuis 2022. Ça s'est accentué avec la dissolution, mais c'était déjà le cas auparavant. Donc malgré tout ça, malgré ce désordre institutionnel, pourrait-on dire, bah, le pays, finalement, sur le plan économique, oui, il tient, parce que vaille que vaille, il y a une petite croissance qui est là, hein, certes modeste, mais enfin qui existe. Il y a une inflation qui a été réduite. Il n'y a pas eu de grande de fuite de cerveau, de capitaux ou quoi que ce soit. Je veux dire que le pays... Et puis, il veut montrer aussi à Emmanuel Macron que, bah, donc ça, il le met en avant. Lui, c'était quand même un peu sa marque de fabrique, hein, de relancer l'emploi. Bah, c'est vrai que l'emploi, pour l'instant, même si c'est les plus aussi flambards que les années précédentes, néanmoins, le chômage est encore contenu, donc il y a cet aspect-là. Donc il défend tout ça. Il défend aussi un petit peu les initiatives diplomatiques qu'il a pu avoir, qui montrent que la France pourrait donner le là. Et notamment, il a fait allusion à la reconnaissance par la France de la Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU il y a quelques mois. Mais enfin, ça, c'était avant l'épisode Trump au Venezuela.
Alors justement, Emmanuel Macron est très présent sur la scène internationale. Les sujets importants ne manquent pas. Il a d'ailleurs déjà essuyé une pluie de critiques pour sa réaction à la capture du président du Venezuela, puisque Emmanuel Macron a pris acte de la fin de la dictature sans condamner l'opération américaine. Il est vrai qu'en Conseil des ministres, il a tout de même affirmé que la méthode utilisée par les États-Unis pour capturer le président Maduro n'était ni soutenue ni approuvée par la France. On voit que même sur les sujets internationaux, l'année s'annonce difficile pour le chef de l'État.
Oui, elle est compliquée. Et là, c'est vraiment, vous venez d'évoquer ce virage sur l'aile, en quelque sorte, hein, qu'il a opéré au Conseil des ministres, parce que c'est vrai que sa première réaction, elle était vraiment malheureuse. D'abord, tout simplement, parce que la tradition française, c'est toujours de faire prévaloir le droit, d'essayer de garder un ordre international, alors, dont on voit bien qu'aujourd'hui, il est quasiment disparu, en tout cas largement battu en brèche, hein, entre les Trump, les Poutine, les Netanyahou, et bien d'autres. La loi du plus fort est plutôt celle qui a tendance à s'imposer. Néanmoins, il y avait quand même cette défense théorique du droit et surtout, donc, tradition française, tradition diplomatique française, mais même, surtout, mantra d'Emmanuel Macron lui-même. Et je faisais allusion il y a quelques secondes aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale de septembre. Eh bien, lors de cette séance-là, Macron, en tribune, avait justement défendu, s'était fait le héros de cet ordre international, de ce droit international qu'il ne faut pas bafouer, qu'il faut respecter. Et il était intervenu justement en réaction au discours de Donald Trump quelques heures auparavant. Donc vraiment, là, il y avait une espèce de reniement, mais qui paraît aussi... en effet, en conformité avec l'affaiblissement de la France sur la scène internationale, qui est tout simplement lié à son affaiblissement, à sa faiblesse interne. Et ça, c'est quand même vraiment dommageable, parce que à un moment où l'Europe a besoin de s'affirmer, il faut justement des grandes voix. Et il y a une chose qu'on ne peut pas dénier à Emmanuel Macron, c'est que depuis son accession à l'Élysée en 2017, il s'est vraiment fait le chantre, il s'est vraiment fait le promoteur de cette souveraineté stratégique, de défense européenne, de donner une consistance de puissance politique à l'Europe. Or là, eh ben, on a l'impression qu'il n'est plus au rendez-vous. Alors certes, il y a des impératifs un peu tactiques, hein. On le voit, les Européens, et donc Emmanuel Macron en tête, ont besoin de l'appui américain sur le dossier qui est primordial à ses yeux, c'est-à-dire le dossier ukrainien, la paix qui pourrait être possible, éventuelle, entre l'Ukraine et la Russie, la guerre d'agression de la Russie. Or, pour garantir la future sécurité de l'Ukraine, les Européens seraient en première ligne, mais ont besoin des États-Unis. Donc on voit qu'il y a là un calcul de la part d'Emmanuel Macron, mais c'est un calcul un peu malheureux.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, Henri Vernet. Avoir une position affaiblie en France, être à moins d'un an et demi de la fin de son mandat, cela n'aide pas Emmanuel Macron à s'imposer face à des dirigeants comme Donald Trump et Vladimir Poutine.
Macron, il est dans une position difficile, qui est est due à cette fin de règne. Il l'avait d'ailleurs théorisé lui-même. Je me souviens qu'il était lors de sa première rencontre avec Donald Trump, qui venait d'être réélu, donc il y a un peu moins d'un an. Cette rencontre, c'était en février, dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Et au retour dans l'avion de Washington, il l'avait confié à quelques journalistes dont j'étais, qui étaient présents à bord de l'Airbus présidentiel, qu'il était bien conscient de n'avoir devant lui qu'une fenêtre d'action pour pouvoir un peu peser sur les choses, tenter d'influer sur la marche du monde. Il n'avait qu'une fenêtre très réduite. Il l'estimait à l'époque à 16 mois. Alors, on était en février, donc ça veut dire qu'il n'en resterait aujourd'hui que quelques mois devant lui, parce que justement, conscient de cette faiblesse qui pèse sur tout président comme ça qui se trouve en fin de règne. Tout simplement, qui va être confronté à une campagne présidentielle dans laquelle il n'aura aucune part, puisqu'il ne peut pas se représenter. Et donc, en effet, un président affaibli sur un plan interne. C'est ce que les Américains appellent le lame duck. Et clairement, Macron lui-même s'attendait à être un lame duck. Mais enfin, disons qu'il pensait quand même que ça durerait un peu plus longtemps. Et ça, c'est une faille très handicapante, d'autant plus donc face à des dirigeants, je citais Poutine, je citais Trump, qui n'hésitent pas, eux, à recourir à la force, à faire ce que bon leur semble. Bah, quand vous êtes un président qui n'a absolument pas les mêmes pouvoirs, c'est-à-dire que vous n'avez tout simplement pas les mêmes possibilités d'action que l'immense puissance militaire et économique américaine confère à Donald Trump.
Alors, se concentrer, comme il le fait sur les dossiers internationaux, c'est une solution de repli pour Emmanuel Macron, parce qu'il n'a plus vraiment la main sur les dossiers qui concernent directement la vie des Français.
Ce président, de toute façon, a toujours mis l'accent sur la politique extérieure, sur l'Europe aussi. Le dossier européen lui est vraiment cher. Et c'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose qui lui est pas tellement contesté. Et la Ve République, en effet, les institutions lui donnent pouvoir d'agir en ce sens. On l'a vu, c'est également le cas pour tout ce qui concerne la défense. Je citais le porte-avions, mais de même, il a donc lancé son chantier du service militaire, volontaire, mais enfin quand même, qui est une rupture avec la situation antérieure. Il a également engagé des dépenses très importantes, des surplus budgétaires extrêmement importants pour les armées françaises. Encore faut-il que ces augmentations soient votées dans un budget. Donc pour l'instant, tout ça n'est pas acquis. Mais enfin, voilà les pouvoirs qu'il a. C'est vrai que sur le plan intérieur, en revanche, sa marge de manœuvre est beaucoup plus réduite, tout simplement parce qu'il n'a pas un Premier ministre disposant d'une majorité à l'Assemblée nationale. Néanmoins, il a quand même ce pouvoir, ce magistère. D'abord, le président, dans notre Constitution, c'est l'arbitre. Il est censé être au-dessus de la mêlée. Donc il peut quand même donner de grandes orientations. Et on le voit, c'est ce qu'il essaie de faire avec les chantiers, j'allais dire, très sociétaux sur lesquels il insiste. On a parlé du numérique et des jeunes, de la fin de vie, de l'éducation. Ça, ce sont quand même des thèmes sur lesquels il veut se faire entendre. Mais par rapport à ce que vous disiez, j'en reviens à cette idée de ce référendum qu'il n'a pas évoqué lors de ses vœux. Alors qu'il avait vraiment fait cette promesse, c'était un engagement à plusieurs reprises déjà. Et justement, c'est vraiment le domaine où il aurait pu consulter les Français, il aurait pu essayer de les embarquer. Alors évidemment, c'est certain que pour des raisons tout à fait pragmatiques, c'est-à-dire tenir un référendum, aujourd'hui, c'est vécu comme un plébiscite par les Français. C'est-à-dire qu'en général, ils y voient une façon de dire oui ou non à leur présidence. Bon, en l'occurrence, vu l'impopularité extraordinaire des Macron, évidemment, ce serait plutôt un non. Donc, pourquoi prendre ce risque politique, par ailleurs, dans un calendrier électoral qui est déjà assez encombré, puisque nous avons des municipales dans quelques semaines, et puis la présidentielle avec une campagne qui démarrera, là, dans les mois qui suivront, en réalité, les municipales.
Henri Vernet, il y a une phrase qui m'a particulièrement frappé dans les vœux d'Emmanuel Macron. « Je ferai tout pour que l'élection présidentielle se déroule le plus sereinement possible, en particulier à l'abri de toute ingérence étrangère. » Il laisse entendre, finalement, que cette élection ne sera pas sereine et qu'il y aura des risques d'ingérence.
Macron pense que l'ingérence étrangère, c'est non seulement un risque, mais c'est une réalité qu'on l'a vu évidemment dans des différentes élections. On l'a vu par exemple avec les élections américaines à deux reprises avec des ingérences russes, mais on l'avait également vu, rappelez-vous, dans la première présidentielle française en 2017, où il y avait eu des manœuvres sur des fake news, sur des manipulations de mails qui étaient, d'après l'Élysée, clairement d'origine russe, et de ce genre de tentatives depuis, n'ont fait que croître et se multiplier. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Elle est très présente. Là aussi, c'est d'ailleurs un thème qui est vraiment important pour l'Élysée, pour Emmanuel Macron. C'est l'un des domaines sur lesquels il veut agir. Et donc là, cette façon de mettre en garde sur une prochaine présidentielle en 2027 qui pourrait être entachée, qui pourrait être gênée par de telles manœuvres, au moment où vraiment la confrontation, presque physique, parce que pour l'instant elle est hybride, mais enfin, on voit quand même que cette guerre froide est de plus en plus chaude de jour en jour, eh bien cette confrontation, elle paraît possible, et ça pourrait passer par des manœuvres sur nos élections, et notamment l'élection suprême, la présidentielle en 2027. Donc ça lui tient à cœur, c'est un combat qu'il veut mener. Maintenant, et là, je reviens à ce que votre première question sur des vœux, c'est vrai, qui ont été décrits comme crépusculaires par certains. Oui, mais je ne sais pas si vous avez fait attention à la une du JDD le week-end dernier, mais justement, certains, alors évidemment, ce sont les opposants patentés d'Emmanuel Macron, c'est vraiment un peu ce qu'on appelle la sphère, en gros, de souverainistes, voire d'extrême droite, mais que voit-il dans cette façon de vouloir préserver par avance de toute ingérence la prochaine élection? Ils y voient une tentation totalitaire d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une volonté de sa part de vouloir absolument tout contrôler et finalement de s'accrocher au pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a là un fantasme, du complotisme, comme diraient certains? Pourquoi pas, sans doute. Néanmoins, c'est indéniablement un cheval de bataille d'Emmanuel Macron.
La plupart des commentateurs estiment qu'Emmanuel Macron s'est tiré une balle dans le pied avec la dissolution, puisqu'il a perdu la majorité à l'Assemblée, même si aucune autre majorité ne se dégage. Même au sein de son camp, le doute s'installe. Édouard Philippe a demandé sa démission. Chez Renaissance, Gabriel Attal ne semble plus très loin de faire son devoir d'inventaire. Est-ce que le macronisme s'est terminé ?
Il y a un grand risque que le macronisme ne survive pas à Emmanuel Macron. C'est vrai que Édouard Philippe et Gabriel Attal, donc ces deux anciens premiers ministres qui sont l'un officiellement, l'autre officieusement, en lice pour 2027, tous les deux font carrément campagne sur la rupture, sur dénier finalement tout ce qui a été leur engagement macroniste. Par ailleurs, on voit pas bien aujourd'hui qui porte le drapeau. Vous savez, puisqu'on parle des vœux, ce qui a été frappant dans cette édition-là, c'est que très peu des soutiens traditionnels d'Emmanuel Macron, de ceux qui étaient avec lui, qui ont été ses ministres, qui ont été ses soutiens politiques. Beaucoup ont été quand même élus députés grâce à lui, enfin en tout cas avec l'étiquette Macron. Eh bien, très peu ont répercuté les vœux d'Emmanuel Macron, les ont expliqués, commentés ou tout simplement relayés sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est que réellement, aujourd'hui, le macronisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas grand-chose. Ce n'est plus grand-chose parce que finalement, l'un des échecs de ce président, ça aura été de ne pas avoir créé réellement un mouvement, un parti structuré, c'est-à-dire programmatique, idéologique, qui aurait été capable de s'implanter assez largement en France, notamment dans des municipalités, dans les régions, un petit peu partout sur le territoire. Ça, c'est incontestablement l'échec du macronisme. Et donc, au total, on voit en effet assez mal aujourd'hui comment le macronisme pourrait survivre au président actuel.
Alors, François Hollande n'a pas fait de deuxième quinquennat, mais son retour à l'Assemblée nationale peut laisser penser qu'il songe à l'élection de 2027. Certains commentateurs estiment qu'Emmanuel Macron pourrait être candidat, lui, en 2032. C'est assez loin de nous. C'est de la pure spéculation ou bien c'est une idée qu'il a laissé lui-même s'installer?
Emmanuel Macron a largement laissé s'installer cette idée. D'ailleurs, ça lui déplaît pas trop que ça continue à tourner. Aussi pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que il serait fâcheux à ses yeux que le macronisme, c'est-à-dire quand même une certaine, telle qu'il était défini à l'origine en tout cas, y compris dans ses livres, c'est-à-dire l'idée de faire exploser les carcans qui enserrent encore la société française, d'avoir davantage de libéralisme sur le plan économique, davantage d'ouverture aux autres, une modernisation de notre société. Tout cela, il aurait peut-être pu le faire dans les 9 ans et bientôt 10 ans qui auront composé ses mandats, mais il s'y accroche encore, et donc cette idée que finalement il serait le seul capable de perpétuer cette idée d'une France macroniste ou macronienne comme on voudra. Donc l'idée d'un retour en 2032, après tout on a parlé de Trump, lui-même est revenu après une interruption de mandat de 4 ans, il s'est fait réélire. Clairement Emmanuel Macron doit y songer. Il y a quelques années, au début de son deuxième mandat, lors d'une réunion avec différents chefs de partis politiques, Emmanuel Macron avait carrément dit, alors, il s'agissait de propos rapportés par l'un des participants, donc pas confirmés directement par lui-même, mais enfin, Macron aurait dit à propos de l'impossibilité de faire plus de 2 mandats consécutifs qu'il s'agissait d'une funeste connerie. Et donc, il le regrettait. Et en effet, moi, je crois que c'est réellement le fond de sa pensée.
Merci, c'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com. Et Henri Vernet, nous pouvons dire à nos auditeurs que vous avez quitté Le Parisien au 1er janvier.
Oui, après près de 30 années dans ce quotidien où j'ai vraiment adoré travailler, c'était une passion journalistique au-delà de cela, mais oui, c'est pas sans nostalgie certaine que je tourne cette page-là du quotidien Le Parisien.
Et on vous retrouve donc sur Radio Orient chaque mardi à 8h et 19h. Merci à tous et bonne année.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.